Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
Une, la poursuite de la mission du chef de la MONUSCO dans l'est du pays. Après le Nord Kivu, James Swan est arrivé hier après-midi à Bunia. La sécurité et la protection des civils figurent au menu de ces différentes rencontres dans ces régions, meurtries notamment par l'activisme de groupes armés. La RDC et la FAO ont élaboré le cadre de programmation pays pour la période de 2025 à 2029. Ce document constitue le principal cadre stratégique de coopération entre les deux dans le domaine de l'agriculture, la pêche, l'élevage et la sécurité alimentaire notamment. Vous aurez des détails dans ce journal. L'arrivée des migrants vendredi à Kinshasa, c'est le premier lot qui a été expulsé des États-Unis. Le sujet a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier. Vous les suivrez dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Fin hier mardi à Beni, au Nord Kivu, de la première mission de terrain du nouveau chef de la MONUSCO et représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC. Avant de quitter la zone, James Swan a échangé avec la société civile, des jeunes, des femmes et des acteurs politiques. Au cœur des discussions, la protection des civils dans un contexte d'insécurité persistante marqué par l'occupation de plusieurs zones de par l'AFC M23 et l'activisme de rebelles des ADF au Nord Kivu. Les participants ont appelé un engagement accru de la MONUSCO pour mettre fin aux souffrances des populations. Détails avec Martial Papimoukeba.
La société civile du Nord Kivu a appelé à une implication renforcée de la MONUSCO pour la réouverture des aéroports de Goma et de Kavumu, ainsi que les retraits de l'AFC M23 des zones occupées. John Banyene est son président.
Quand on parle du couloir humanitaire, l'aéroport de Goma, même l'aéroport de Kavumu, peut aussi faciliter pour ce qui concerne l'aide humanitaire à l'Est. Nous avons insisté pour que ce couloir humanitaire puisse être une réalité. Par rapport à la guerre du M23, nous avons demandé que la résolution 2773 puisse être une réalité.
De son côté, Emery Malinga, président du Conseil provincial de la jeunesse, a insisté sur les rôles de la MONUSCO dans le respect du cessez-le-feu et la restauration de l'autorité de l'État.
La priorité majeure de la population et de la jeunesse, c'est la restauration de l'autorité de l'État dans les zones occupées, les retraits des troupes du Rwanda sous le label AFC M23. Et que la paix règne. Nous avons évoqué effectivement la résolution 2808 qui accorde un mandat à la MONUSCO pour surveiller effectivement les cessez-le-feu.
Ces échanges ont marqué la fin de la mission de James Swan à Beni. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé ce même mardi soir à Bunia, chef de la province de l'Ituri. Au programme de sa visite, des échanges avec les différentes couches de la population en vue de renforcer la collaboration entre la MONUSCO et les communautés locales. À son arrivée à l'aéroport de Bunia, il a été accueilli par le gouverneur de province qui voit en cette visite une opportunité de consolider le partenariat pour la recherche de la paix. Isaac Crémont.
À peine arrivé, le chef de la MONUSCO, accompagné de son adjointe en charge de la protection et des opérations, a échangé avec le personnel de la mission ainsi que celui des agences du système des Nations Unies basé à Bunia. Au centre des discussions, les actions menées dans le cadre du mandat de protection des civils et d'appui humanitaire. Ce mercredi, James Swan prévoit de poursuivre ses consultations. Il doit rencontrer les gouverneurs de province, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que les représentants des jeunes et des associations féminines. Objectif, écouter les différentes parties prenantes et renforcer la collaboration en faveur de la stabilisation de la province. James Swan.
Je voudrais avoir contact avec la communauté. C'est surtout afin d'assurer que la communication, les relations entre la MONUSCO et les communautés restent fortes et seraient même améliorées davantage.
Cette première visite suscite de l'espoir du côté des autorités provinciales qui y voient une occasion de renforcer la synergie des efforts pour les retours de la paix. Le gouverneur de l'Ituri, général Johnny Luboya.
En ce qui concerne la mutualisation, c'est la MONUSCO avec qui nous travaillons ici. Et donc, le fait que le représentant soit arrivé ici, nous avons une opportunité pour discuter, n'est-ce pas, du mandat de la mission ici en Ituri et voir comment est-ce que nous pouvons continuer avec notre collaboration pour la protection des civils et la paix.
Bounia, Isakre Moyope, Radio Kapi.
Parlons politique à présent. Le processus de collecte des contributions lancées par l'Union sacrée de la nation en vue d'une éventuelle réforme constitutionnelle suscite des réactions au sein de la société civile, également de la classe politique. Pour Jean-Claude Katende, acteur de la société civile, cette démarche s'apparente à une distraction. Selon lui, le projet de constitution serait déjà arrêté en amont. Même position du côté de la plateforme d'opposition Lamuka. Son porte-parole, Prince Epengue, qualifie cet appel de provocation. Il attire l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les risques liés à cette initiative. On écoute Prince Epengue dans ses propos recueillis par Grace Samzati.
Autant le peuple a condamné la rébellion AFC-M23, autant le peuple condamne la rébellion contre la Constitution. S'il y a bien des consultations à mener, c'est pour résoudre la question de l'eau, de l'électricité, de l'insécurité, des manques d'emploi, de la pauvreté qui gagne toutes les provinces du Congo. C'est bien la question des milliers et millions de Congolais qui sont dans des camps de déplacés, pas pour changer la constitution. Il n'y a aucune question qu'on puisse résoudre au Congo en changeant la constitution. Il n'y aura pas de troisième mandat. Autant nous avions dit non à Kabila, autant nous disons non à Félix Tshisekedi et son Union sacrée. Alors même que la nation a besoin de l'unité et de la cohésion, l'Union sacrée à travers Mbata vient avec une proposition clivante, une proposition qui va déstabiliser le pays davantage. Le peuple congolais est debout dans toutes les provinces pour dire pas de troisième mandat.
La République démocratique du Congo et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, ont élaboré un cadre de programmation pays, CPP, pour la période de 2025 à 2029. Le CPP constitue le principal cadre stratégique de coopération entre les deux parties dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, de développement rural et de la sécurité alimentaire, de la nutrition et aussi de la gestion durable des ressources naturelles. Les deux parties ont procédé à l'endossement de ce document hier mardi à Kinshasa. Nancy Atambo était sur place.
L'objectif était de valider de manière participative et consensuelle ces documents afin d'assurer son appropriation par toutes les parties prenantes. Secrétaires généraux des ministères sectoriels et partenaires techniques se sont réunis pour valider ces cadres. Pour la FAO, cette activité marque une étape importante dans la définition de priorités du nouveau cycle. Henri-Paul Eloma, assistant à la FAO, explique tout en insistant sur le renforcement de la collaboration avec le ministère sectoriel.
Axe prioritaire, le premier axe est en rapport avec la gouvernance, production des textes légaux, des politiques et des stratégies dans les domaines production végétale, la production animale, la protection des forêts, la lutte contre la pauvreté. La FAO appuie les ministères sur le plan technique.
Selon le secrétaire général d'un des ministères sectoriels, l'accent a été mis sur l'impact attendu du CPP 2025-2029 dans la sécurité alimentaire.
Le CPP nous aide à mettre en œuvre des projets du secteur agricole, halieutique, du secteur de l'environnement, de tous les secteurs impliqués qui rentrent dans la vie nationale en mieux-être de la population congolaise.
Un nouveau cap est ainsi fixé pour une action coordonnée au service de population.
La commission de la concurrence, COMCO, structure dépendante du ministère de l'économie nationale, renforce depuis hier mardi ses mécanismes de régulation économique dans le pays. Cette autorité administrative chargée de veiller au bon fonctionnement des marchés, de garantir une concurrence loyale au pays, est désormais dotée d'un siège. Pour son coordonnateur, Fredin Simbaluzolo, ce nouveau bâtiment permet une amélioration significative des conditions de travail du personnel et marque aussi une nouvelle étape dans le renforcement de la régulation économique en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, insiste sur le rôle stratégique de la COMCO en tant qu'instrument de souveraineté économique chargé de garantir des pratiques commerciales saines, d'assurer une concurrence équitable et de protéger les consommateurs. Il le dit au micro de Blaise Chindani Kambala.
Moi, je vous vois comme un vrai instrument de restauration de la souveraineté économique de la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison que j'ai tenu à m'assurer que les éléments de base sont en place pour que vous soyez performant. Le bâtiment, le cadre de travail est un préalable important. Donc aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Et moi, je vous jugerai par votre performance. Je vous jugerai par votre capacité à mieux saisir la vraie mission qui est celle de la commune. C'est pas une structure pour harceler. C'est une structure pour aplanir le terrain pour tous. Et une structure pour protéger les consommateurs.
Notez que la mission principale de la Commission de la concurrence est de promouvoir et de protéger la concurrence en luttant contre les pratiques anticoncurrentielles telles que les abus de position dominante et les ententes illicites. Suite de notre série de reportages sur les nuisances sonores, elles se portent bien dans la ville-province de Kinshasa, plus précisément au quartier Kingabwa, dans la commune de Limété. La population, en particulier les enfants, les élèves et les personnes âgées, est confrontée à ce problème aussi bien le jour que la nuit. Des détails avec Christophe Ngandou.
Les habitants du quartier Kingabwa, l'un des quartiers populaires de la capitale congolaise, dénoncent les nuisances sonores causées principalement par les bars. Clovis Alimba, enseignant à l'école La Semence des Élites, située entre plusieurs terrasses, exprime sa colère.
Ici à Kingabwa particulièrement, c'est de la musique qui prime. Il y a certains bars, pour ne pas citer tout le monde, il y a certains bars qui commencent à 17h30, après les cours, et ils commencent la musique.
Interrogé, quelques tenanciers des bars et terrasses affirment respecter la mesure de l'hôtel des villes qui autorise la musique uniquement après la sortie des classes et jusqu'à 22h.
Nous respectons les mesures de l'hôtel des villes. Nous jouons la musique après la sortie des élèves et nous arrêtons à 22h.
La population appelle à une implication plus ferme des autorités compétentes pour mettre fin à cette problématique des nuisances sonores dans les quartiers Kingabwa, dans la commune de Limété.
Santé, une campagne intégrée de vaccination contre la rougeole et la rubéole en faveur des enfants âgés de 6 mois à 14 ans ainsi que contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 59 mois est en cours dans le pays à partir d'aujourd'hui 22 avril, c'est jusqu'au 26. Dans le Kwilu, le lancement officiel a eu lieu hier mardi à Bandundouville. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de province, Dr Philippe Akamituna. Environ 1 337 000 enfants de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite grâce à la co-administration du vaccin oral en raison de 2 gouttes par voie orale. Par ailleurs, environ 3 255 000 autres de 6 mois à 14 ans recevront une injection de vaccin contre la rougeole et la rubéole, toujours dans la province de Kwilu. Dans son mot de circonstance, le gouverneur a exhorté toutes les couches de la population à s'impliquer activement pour la réussite de cette campagne qui vise à protéger les enfants dans la province du Kwilu. Dr Philippe Akamituna, dont c'est propos recueillis par Jean-Claude Tangamon.
Cette campagne constitue donc une opportunité importante pour protéger tous les enfants contre ces maladies dangereuses et réduire la mortalité infantile. Elle permettra également de renforcer notre système de santé et de contribuer à l'effort national et international visant l'élimination de la rougeole, de la rubéole ainsi que l'éradication de la poliomyélite. À cet effet, j'encourage et exhorte en même temps les parents et les tuteurs faire vacciner nos enfants pendant toute la durée de cette campagne. La vaccination est gratuite et efficace. J'invite également la Task Force Communication, les leaders communautaires, religieux et coutumiers à sensibiliser la population afin d'en tirer une forte mobilisation.
Il y a eu vote lundi à l'Assemblée provinciale du Kasaï central de l'édit portant à disposition générale applicable aux partenaires humanitaires et de développement œuvrant dans la province. D'après le député provincial Anaclé Mouyaya Tiaba, initiateur de cet édit, le gouvernement provincial n'est pas suffisamment informé des activités menées par les organisations humanitaires et de développement dans cette province. Il évoque également des cas de duplication d'actions dans certaines contrées. Selon lui, cet édit vise à mettre en place un cadre de concertation permettant d'améliorer la collaboration entre le gouvernement provincial et ses partenaires. Anaclé Mouyaya Tiaba explique les motivations de cette initiative au micro d'André Katende Ngalamulume.
La motivation, c'est que nous avons autant de partenaires, les humanitaires, les agents de développement qui viennent travailler ici chez nous. Nous avons compris que dans leur intervention, il y a parfois un laisser-aller. Un organisme qui arrive avec une action humanitaire, avec une action de développement, l'autre est là et deux fois Ils ne veulent pas que le gouvernement provincial puisse avoir la même mise ici, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà pourquoi nous avons pensé aujourd'hui qu'il y ait un cadre de concertation qui peut aider à ce que, lorsqu'un intervenant arrive, il faut que le gouvernement provincial puisse savoir ce qui est en train de se faire. Nous avons voulu qu'il y ait un cadre de concertation qui doit avoir les regardants sur ce qui se passe en matière de développement. Sinon, ça serait un désordre. Tel organisme arrive avec telle action. Parfois, l'autre arrive dans un même terrain avec la même action. Là, ça serait un désordre. Donc, il faut qu'il y ait un organe de contrôle, de suivi.
En Mbandaka, 15 députés provinciaux ont élu un nouveau président de l'Assemblée provinciale au cours d'une séance plénière tenue lundi. Clovis Elongama remplace à ce poste Delcy Mata, convoqué à Kinshasa suite à une situation de crise institutionnelle créée depuis le week-end dernier à l'Assemblée provinciale de l'Équateur. La société civile de l'Équateur crie à la manipulation des députés provinciaux qui, selon elle, au lieu d'autoriser ou non la poursuite judiciaire contre le gouverneur de province, se sont plutôt lancés dans un jeu politique pour contourner le réquisitoire du procureur de la République près la Cour de cassation. Fabien Mungunza, président de la Société civile de l'Équateur, explique ici ses déboires. Ses propos sont recueillis par Askin Zigbatayoro.
On ne peut pas comprendre comment des élus du peuple puissent se laisser instrumentaliser de cette façon par un homme qu'ils ont élu au second degré, tout simplement parce qu'il manipule les ressources de la province. Le gouverneur qui avait été invité à la Cour de cassation était présumé innocent. Il aurait dû aller présenter ses moyens de défense. C'est un montage initié par lui. Il en est le maître d'œuvre. Comprenez qu'un simple réquisitoire sur lequel les députés auraient dû se prononcer par vote secret tel que prescrit dans les règlements. Tout a été boutiqué pour qu'on crée un incident et en arriver là, il se permet même de désavouer le président de l'Assemblée provinciale pour les raisons qu'ils ont évoquées. Mais ces raisons, si elles sont fondées, elles ne dateraient pas d'aujourd'hui. Ils ont eu tout le temps de le faire. Pourquoi simplement au moment où il s'est agi de poursuites contre le gouverneur de province, que ces raisons-là parviennent au grand jour? Non, c'est de la manipulation. Nous, société civile, nous avons déjà eu à dénoncer la mauvaise gestion de la province. Vraiment, nous en appelons aux autorités nationales parce qu'elles sont impliquées. Elles sont responsables de cette situation-là.
Contacté, Jimmy Mopongo, conseiller en communication de l'autorité provinciale, dit que le gouverneur Bobo Boloko n'est ni de loin ni de près concerné par ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale de l'Équateur.
Actualité internationale.
L'Union européenne et les Nations unies ont publié lundi un rapport conjoint indiquant que le développement humain à Gaza a subi un recul de 77 ans et que 71,4 milliards de dollars américains seront nécessaires au cours de la prochaine décennie pour assurer son redressement et sa reconstruction. Selon l'évaluation finale rapide des dégâts et des besoins à Gaza menée conjointement par l'Union européenne, l'ONU et la Banque mondiale, 26,3 milliards de dollars américains seront nécessaires au cours de 18 premiers mois pour établir les services essentiels, reconstruire les infrastructures critique et soutenir la reprise économique.
L'invité.
15 personnes sont arrivées vendredi 17 avril dans la capitale congolaise, marquant le début de la phase opérationnelle du dispositif d'accueil temporaire de ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis. L'annonce a été faite par le gouvernement congolais dans un communiqué publié le même 17 avril. Cette thématique a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier. On les écoute au micro de Guy Maté.
Joseph Bangakia, vous êtes député national élu de Rungu dans la province du Haut-Uele. Vous êtes cadre de l'Union sacrée de la nation et président du groupe d'amitié RDC États-Unis. Comment vous expliquez l'accueil par la RDC des ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis?
Déjà, ce dossier, c'est un dossier sensible. Sensible pourquoi? Parce qu'il concerne des êtres humains. Et je comprends la dimension humaine à laquelle tout le monde est attaché. Et bien sûr, la RDC a souscrit à tous les instruments internationaux sur les droits humains. Donc là, j'ai parlé de la dimension humaine du dossier. Je comprends aussi, et c'est compréhensible, que notre pays qui se trouve dans des problèmes qui ont commencé justement en 94, entre autres, avec l'accueil des milliers, des dizaines de milliers, de centaines de milliers, peut-être de millions de réfugiés venus du Rwanda. Jusqu'à ce jour, le pays est entré dans un cycle de problèmes de violence. Les Congolais ont perdu des millions de leurs compatriotes. Et donc, dans l'opinion, il y a une crainte quant à ce. Mais pour la RDC, il est clair que nous avons un rapprochement avec les États-Unis. On vient de très loin. Et le revirement que nous voyons aujourd'hui, c'est le fruit d'une diplomatie très active dans cet accord sur le dispositif d'accueil temporaire des migrants n'est peut-être qu'une petite partie.
Merci Émile Hassani, vous êtes député national élu de Kindu sur la liste LGD, parti de l'opposition dont Matata Ponyo est le leader. Vous êtes également avocat au barreau de Kinshasa Matete. Comment vous également vous comprenez cette problématique d'accueil en RDC des personnes expulsées des États-Unis?
Franchement, pour nous, nous percevons ça comme une insulte. C'est à la fois une insulte au peuple congolais et en même temps, ça vient mettre à nu la façon dont le pays est géré à la légère, avec une telle légèreté. Une insulte, pourquoi, M. Guy Maté, vous allez vous mettre d'accord avec moi que l'insécurité dans notre pays est devenue grandissante. C'est presque dans chaque coin de la capitale, dans chaque coin des provinces, qu'il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait des cas de criminalité, assassinats, meurtres, ça et là. Déjà, l'État lui-même qui ne sait pas assurer la sécurité à ses propres citoyens, que dire lorsque on reçoit dans des circonstances un peu floues, opaques, les citoyens venant d'autres horizons. J'ai dit que c'est une insulte également parce que chez nous, nous sommes débordés par les réfugiés. Mais curieusement et contre toute attente, c'est cet même État-là qui est incapable d'assurer le lendemain meilleur à sa population, qui se fourvoie à recevoir des citoyens venant d'autres pays. D'ailleurs, on ne gère pas un pays par les mensonges. L'État qui dit « c'est pas nous qui prenons en charge ces migrants », en même temps, le même État tend la main à l'Organisation internationale de la migration pour solliciter de l'aide. Voyez-vous comment les mensonges ont été instaurés en mode de gouvernance, ce qui est tout à fait pitoyable.
Merci Jolino Malokissa, professeur. Vous êtes directeur du pilier gouvernance à l'Institut congolais des recherches sur la politique, la gouvernance et la violence et Bouteli. Quelle est votre lecture de l'accueil par la RDC des ressortissants des pays tiers en provenance des États-Unis?
Alors, je pense qu'il y a deux arguments qui peuvent vous permettre de mieux comprendre la situation. D'abord, la compétition qui se joue aux États-Unis entre le Rwanda et la RDC. Si le gouvernement congolais agit dans ce sens, il croit que la pression américaine sera maintenue sur le Rwanda pour atteindre ses objectifs de pacification de l'Est. Et le deuxième argument, c'est les prétentions que le président de la République a probablement pour briguer un troisième mandat. Et si on tente, comme on le voit déjà au niveau de l'Union sacrée, de pousser ce débat pour le troisième mandat du président, qu'est-ce qui peut bloquer encore le président de la République pour le troisième mandat? Ça peut être une pression de l'extérieur. Donc à partir du moment où tout accord avec les États-Unis est bon à prendre, à ce moment-là, le pouvoir en place peut espérer avoir un soutien du pays de l'oncle Sam pour le troisième mandat.
Vous pouvez continuer de suivre ce dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Jules Mista Bilanda, mis en onde par Dieudonné Yangassa. Excellente journée.